Patrice, tu as tout à fait raison. L'étude du passage de ce matin est vraiment quelque chose qui m'a béni, qui m'a renouvelé. Et je crois que l'étude personnelle de la parole, c'est un puits sans fond de grâce, de bénédiction, où Dieu nous remplit vraiment de lui, de sa parole, nous interpelle, nous encourage, nous redresse. Et c'est vraiment, enfin, autant la partie présente là d'apporter ce message, on se sent toujours tendu, mais dans la préparation, mais qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est, enfin, c'est vraiment, ça me nourrit moi fortement, et j'espère, comme le disait Patrice, arriver à vous retransmettre des choses que le Seigneur m'a données. Et toujours dans ta prière, Patrice, tu disais que nous puissions mettre en pratique. Et ce matin, le message, je le veux particulièrement interactif. Alors d'habitude, on a l'habitude, il y a celui qui est debout, qui parle, et puis on est assis, on écoute. Ce matin, je voudrais que dès qu'on découvre quelque chose sur Dieu, on prenne ensemble juste 2-3 minutes, on est en famille. On est le peuple de Dieu, Dieu nous parle, et bien qu'on prenne juste 2-3 minutes et que l'un ou l'autre puisse prier pour ce que Dieu va nous montrer. Et puis on reprendra le message. Parce que souvent, on prêche, on dit voilà, il y a ça à faire, allez, au revoir, on se salue, et puis on se retrouve tout seul à devoir prier, à repenser à ce que Dieu nous a montré. Et là, ce matin, je veux qu'en temps direct, on puisse prier. Et si à un moment, vous avez vraiment une prière qui vous vient sur le cœur, vous me coupez la parole et vous priez. Est-ce que ça vous va? Vous êtes mousse, ça fait plaisir. Ça promet. Alors, il y en a qui sont là depuis 8 heures ce matin, je sais qu'ils ont déjà beaucoup donné, mais tous les autres, vous n'avez pas d'excuses. Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir pour que vous soyez réactifs. Nous sommes dans une série de 3 messages où nous voulons mettre en valeur des hommes qui n'étaient pas remarqués, mais remarquables. Des personnages secondaires dans la Bible qui sont tout à fait remarquables. Alors, Joe, la semaine dernière, Joe de SMH, de Saint-Martin-d'Hères, nous a parlé de Joe d'Arimathée. Hein? Je n'ai pas trouvé de Raphaël, je vais vous parler d'un autre personnage. Mais tous ces personnages ont en commun d'être des personnages secondaires, il semblerait, en tout cas à leur époque, et qui en tout cas était tout à fait remarquable. Des personnages pas remarqués, mais remarquables. C'est une phrase que vous avez sûrement déjà entendue, qui est citée régulièrement. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui nous met en avant, qui veut faire remarquer des gens. On cherche tous quelque part à se faire remarquer. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Je suis peut-être le seul ici, mais on cherche tous à se faire remarquer. Regardez toutes ces émissions de télé où le but, c'est d'être populaire, d'être connu, d'être une vedette. Mais au fond, est-ce que ces personnes sont vraiment remarquables? Je ne sais pas, je ne les connais pas personnellement, mais en tout cas, de ce qu'elles laissent à voir, il n'y a pas grand-chose. Et sans vouloir enfin, les juger, mais c'est ce qu'on constate tous, hein, n'est-ce pas? Et pourtant, qui ne va pas sur les onglets, vous savez, people de tous les sites pour regarder l'actualité de tous ces people, et puis on sait qu'un tel fait ses courses à Paris pour Noël, bon, c'est génial, et voilà, mais c'est quelque chose qui fascine. Et ça va complètement à l'encontre de la parole de Dieu, où toute la pensée biblique, c'est de dire à l'homme, ne cherche pas à te faire remarquer, mais sois quelqu'un de remarquable devant moi. L'Église n'a pas besoin de gens qui cherchent à se faire remarquer. Elle a besoin de gens remarquables. Ce matin, je voudrais vous parler d'un homme remarquable à son époque, mais qui n'était pas remarqué du tout. Il s'agit de Néhémie. Alors, j'ai oublié mon PowerPoint. Si je peux prendre la petite... Ouais, si tu peux me la préparer, s'il te plaît. Alors, Néhémie. Un personnage qu'aujourd'hui nous connaissons, sûrement, vous l'avez déjà lu, ce livre est connu, il y a de très très beaux versets dedans, un message très fort, mais à son époque, Néhémie en tout cas n'était pas du tout remarqué. Pourtant, c'était vraiment quelqu'un de remarquable. Néhémie était Hop là, voilà, merci. Il y a eu une période dans l'histoire du peuple d'Israël, après la période, vous savez, la conquête avec Josué. Je vous fais une chronologie express. Conquête de Canaan avec Josué. Derrière, il y a quoi? Les juges. Après les juges, au bout d'un moment, les peuples en ont marre de ça et ils veulent un roi comme les autres. Alors, il y a... Voilà. Et après, il y a... Et après... Parfait. Après Salomon, un schisme, deux royaumes. Il y en a un qui disparaît, Juda reste. Le royaume du sud, et le royaume de Juda était un royaume où l'idolâtrie était incessante. Dieu a envoyé des prophètes pour les prévenir, Dieu leur a parlé, et tous ces péchés, avec vraiment le summum à l'époque de Manassé, ont conduit Dieu à juger le peuple et à faire intervenir les Babyloniens, avec à leur tête Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, pour ceux qui aiment plus, ça fait dinosaure, et qui est venu donc de Babylone. Alors, vous voyez la carte, là, Babylone, et donc, c'était une cité-État, on pourrait dire, hein, et a envahi toute la région en montant jusqu'à l'actuelle Turquie et l'Égypte. Là, vague de déportation. On a parlé en début d'année d'un homme qui s'est fait déporter et qui était aussi remarquable. Daniel, très bien, ça va, vous vous souvenez, vous situez donc à peu près. Donc, des prophètes se font sont en exil, il y a aussi Ézéchiel, Daniel, Jérémie, lui, doit partir en Égypte. Et en 539, après ça, il y a un autre royaume qui s'appelle, ce sont les Perses, encore plus à l'est. Et ce royaume, avec à leur tête Cyrus, va engloutir Babylone, prendre Babylone et étendre son royaume, pareil, reprendre tout le royaume en fait de Babylone, donc jusqu'à la Turquie et l'Égypte, tout ça. Et Cyrus était un homme intelligent et il a décidé d'envoyer, de permettre à une poignée donc de juifs qui étaient à Babylone et à Suse de retourner jusqu'à Jérusalem ici pour reconstruire la ville, car il voulait en faire un poste, une avant-garde militaire pour le protéger des Grecs au nord et des Égyptiens au sud qui voulaient attaquer son royaume. Derrière tout ça, il y a la main de Dieu, bien sûr, nous le savons. Et Dieu, à cette période-là, qu'on appelle le réveil, alors ce n'est pas un terme biblique, mais c'est comme ça qu'on appelle cette période, le réveil du peuple, a envoyé une poignée d'hommes brûlants, des hommes décidés à servir le Seigneur pour réformer Jérusalem. Il y avait à leur tête Zorobabel, un homme à une stature politique. Il y avait aussi Esdras, bien sûr, qui est dans le livre juste avant Néhémie, qui lui a reconstruit le temple. Néhémie qui a reconstruit les murailles. Et puis il y avait des prophètes comme Agée, Zacharie, Malachie, qui eux prophétisaient. Voilà. Donc le culte est rétabli. La parole de Dieu est prononcée à tout le peuple. Les gens se repentent. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est la fête. La parole de Dieu est remise au centre. Dieu est remis au centre. La vie, ça y est, enfin, reprend son cours et est centrée au niveau de Dieu. Bien sûr, cette période ne durera pas. Le peuple se détournera encore jusqu'en attendant la venue de Jésus. Et Roy Essien, que vous connaissez sûrement, un évangéliste, disait que le réveil spirituel, ce n'est pas le plafond qui s'envole, waouh, c'est super, on vit quelque chose de génial, mais c'est le plancher qui s'effondre, où on se retrouve tout nu, entre guillemets, à genoux devant Dieu. Vous allez comprendre. Quelques années plus tard, donc pendant cette période-là, naquit Néhémie. Néhémie était échanson du roi, Artaxerxès, donc le successeur de Cyrus, à Suse, la capitale à l'époque. Donc il travaillait là-bas. Alors un échanson, c'est un homme qui avait, comme vous pouvez le voir là sur la gravure, c'était un homme qui avait comme rôle de servir le vin au roi. C'est un serveur. Mais un serveur remarquable, parce que le roi devait choisir un homme envers qui il n'avait aucun doute, un homme au-delà de tout soupçon, dont l'intégrité est inébranlable. Parce que beaucoup, son père lui-même, beaucoup d'hommes avaient été empoisonnés par des serviteurs. Et donc c'est un homme qui n'est pas remarqué, parce qu'il est derrière le roi, et puis il se tient avec la cruche, et il passe son temps à vérifier que personne ne va mettre de poison, et à servir lui-même le roi. Il devait même goûter régulièrement pour s'assurer qu'il n'y avait pas de poison. Et ça me fait penser un peu au stadier, pour ceux qui aiment bien le foot. Vous savez, c'est les gars, ils sont tout proches du terrain, mais ils sont dos au terrain, et puis ils regardent les gens pour voir si tout va bien. Voilà, c'est un petit peu le même genre, enfin, si on veut faire un parallèle un peu large, mais voilà. Ça me fait penser à ça. Donc, un homme de valeur, on sait déjà, incorruptible, et je pense que Dieu, déjà, au travers de ce travail, de cette profession qu'avait Néhémie, a travaillé déjà, l'a préparé. Et un jour, Néhémie va voir le roi et lui dit, écoutez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi une disponibilité, je dois partir à Jérusalem pour reconstruire la ville. Et le roi le laisse partir et commence la grande aventure pour Néhémie de reconstruction des murailles de Jérusalem. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un serviteur, un gars qui était serveur, pour reconstruire des murailles? Enfin, ça peut sembler complètement fou. Qu'est-ce qu'il y connaissait, Néhémie? Je ne sais pas. À mon avis, pas grand-chose. Et qu'est-ce qui va conduire Néhémie à se présenter devant le roi pour lui faire cette demande, au risque que le roi soit vexé et décide peut-être simplement de le tuer? Qu'est-ce qui va le pousser à faire ce pari fou de tout abandonner, une ville au sommet de sa gloire, pour rejoindre une ville qui est en ruine? Alors je vous propose d'ouvrir le livre de Néhémie, vous l'auriez deviné, et nous allons regarder le chapitre 1 et voir, comme le rappelait Daniel hier soir aux jeunes, que dans la Bible, il y a tous les commandements, mais Dieu aussi nous a laissé quantité d'histoires d'hommes et de femmes qui sont pour nous des enseignements dont on peut tirer des leçons pour notre vie dans notre quotidien. Alors, je vais lire à chaque fois quelques versets, on s'arrêtera et puis on commentera, et puis on reprendra la lecture et puis on commentera, comme ça on va dérouler donc tout le chapitre 1. Alors, je lis les versets 1 et 2. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie, ça c'est le début de tout ce qui va se passer. Néhémie pose la question qui tue. Comment vont les frères? Donnez-moi des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors faites attention à la fin du culte. Il peut y avoir de grosses conséquences quand on dirait « Salut, ça va ?» Comment vont les frères? Et cette question de Néhémie montre son ouverture de cœur, le souci qu'il a pour tous ceux qui sont à Jérusalem, le souci qu'il a pour la ville sainte. Et quand j'ai lu la première fois que j'ai réfléchi sur cette question, ça m'a fait penser un petit peu à Paul qui disait aux Corinthiens, « Corinthiens, notre cœur s'est élargi pour vous et vous n'y êtes pas à l'étroit. » C'est pareil, c'est la même démarche. Un cœur gros comme ça. Un cœur qui est prêt à écouter et à recevoir, à être attentif aux besoins. C'est le début. C'est ce qui va tout déclencher. La motivation de Néhémie, elle vient du plus profond de son cœur. Et là, on va voir que c'est une période, alors vous voyez, entre cette question et le moment où il va se présenter devant le roi, en réalité, il y a 7 mois qui se passent. 7 mois où Dieu, dans le secret, va préparer son serviteur. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la parole, hein, pour beaucoup de serviteurs, où il y a toute une période où Dieu travaille le caractère. Il va passer tout ce temps dans l'intimité avec Dieu. Et la question qu'on peut se poser, nous, déjà, c'est que, est-ce que dans notre cœur, il y a de la place pour les autres? pour être attentif aux besoins? Est-ce qu'on a cette place, un endroit où c'est vide, où on va pouvoir faire venir les autres? Et je crois que si on n'en a pas, on peut demander à Dieu une transplantation cardiaque, quoi. Seigneur, donne-moi ton cœur, un cœur plus gros, un cœur aimant. Est-ce que vous pensez que c'est une chose importante à demander à Dieu? Oui? Alors, est-ce que l'une ou l'autre personne veut bien prier pour ça? Que Dieu vraiment nous encourage dans notre vie chaque jour à avoir un cœur ouvert aux autres, ouvert à lui aussi, bien sûr. Et on continuera. Amen. Je continue la lecture. Verset 4, lorsque j'entendis ces choses. Non, pardon, excusez-moi, verset 3. Je lis jusqu'au verset 4. Donc Jérémie dit, comment vont les frères? Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Wow. La nouvelle le bouleverse, le démolit. Il se retrouve lui-même comme Jérusalem. Il n'en peut plus. Les frères vont mal. La ville où Dieu avait décidé de faire résider sa présence, son nom, est en ruine. Comment accepter ça? Alors on peut imaginer que Néhémie, donc c'est son frère, hein, qui vient le voir avec des amis, avait des relations, devait avoir eu peut-être plusieurs fois dans sa vie des nouvelles de Jérusalem. Mais là, il est mûr et Dieu touche son cœur. Dieu est en train de lui transmettre son fardeau. Et il va prendre conscience de quoi? De tout le péché, de tout le mal qui a été fait à Dieu. Ce n'est pas la cause de Babylone, cette destruction. C'est à cause de nous. C'est nous qui avons fait ça. Le plancher s'effondre, comprenez? Et je trouve que cette réaction se voit chez plusieurs prophètes. On la voit chez Ésaïe aussi, chez Jérémie. Et notamment chez Ézéchiel, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, quand Dieu appelle Ézéchiel, il lui donne à manger un rouleau, où il y a tout ce que Dieu veut qu'il révèle, où Dieu lui dévoile un peu son cœur et sa peine. Et Ézéchiel mange le rouleau, et après ça, Dieu le place au milieu du peuple, où Ézéchiel doit rester là pendant 7 jours à regarder. Et à la fin de ces 7 jours, il est comment? Comme Néhémie. Il est démoli, il est en larmes. Parce qu'il réalise, Dieu lui a greffé un peu ses yeux, son cœur, et il voit ce qui autour de lui comme Dieu veut qu'il voit. Et Néhémie ne se porte pas en juge des autres, bien sûr, mais il voit ce péché-là. Ça lui est révélé. Il voit aussi son propre péché. Et c'est aussi une interrogation qu'on peut se faire, c'est à quel point mon péché est quelque chose qui me touche, qui me démolit. Est-ce que je peux cohabiter avec sans problème? Là, c'est signe que peut-être quelque chose ne va pas, que Dieu doit travailler. Et pareil, le péché des autres, Jamais la parole nous dit qu'on doit fermer les yeux et que chacun doit vivre sa vie spirituelle comme il l'entend. Non, le péché des autres aussi est quelque chose qui doit nous faire beaucoup de peine. Non pas après en se plaçant en tant que juge, mais en tant que frère, en voyant comment on peut aider la personne. Et on va voir, la suite va nous montrer un petit peu comment a réagi Néhémie. Et quel est derrière ça le réflexe de Néhémie, donc ? C'est de jeûner et de prier. Alors, je n'ai pas du tout le temps de développer la question du jeûne, je la laisse un petit peu de côté, parce qu'en plus, bon, on voit surtout la prière de Néhémie, donc je vais me concentrer dessus, mais le jeûne est quelque chose de très intéressant, et une discipline spirituelle aussi importante. Mais je vais me concentrer sur la prière, et en tout cas, à ce moment-là, Néhémie, échanson du roi, paumé, il n'a aucune idée de ce que lui peut faire. La seule solution qu'il voit, c'est prier. C'est la prière. Et je crois que Dieu se plaît de nous voir aussi dans cette position où avant tout, la seule solution qui se présente à nos yeux, la seule chose à faire, c'est de tout remettre entre ses mains et de nous-mêmes nous remettre entre ses mains, de nous repentir s'il y a besoin aussi selon les situations. Alors, regardons d'un peu plus près cette prière. Je lis du verset 5 au verset 9. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. » Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez et que je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors... Quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Néhémie, alors oui, j'ai oublié la question remarquable, a une réaction remarquable et fait cette prière remarquable. Il prie qui ? Regardez les textes. Ô Éternel, Dieu des cieux. Dieu grand et redoutable. Dieu n'était pas Dieu qu'à Jérusalem. Il était Dieu aussi à Babylone. Dieu sur toute la terre. Et il s'adresse bien à un Dieu grand et redoutable qui est souverain sur toute chose. Tout est entre ses mains et Dieu peut agir absolument sur tout. Rien ne lui échappe, rien ne lui est insoumis. Et c'est pour ça qu'il peut prier. Si Dieu n'avait pas les oreilles... Si Dieu n'était pas présent, si Dieu ne pouvait pas, pourquoi l'aurait-il prié ? Avant tout, on constate que Néhémie a bien conscience qu'il a affaire à un Dieu qui peut tout, à un Dieu souverain. Et je crois que considérer la grandeur de Dieu dans notre vie est un impératif, dans notre vie de prière est un impératif. Parce que de toute façon, quelle a notre valeur ? Enfin, vous pensez que Dieu, s'il nous voit douter de lui, il se plaît à écouter notre prière ? Ouais, Dieu, je ne sais pas si tu peux faire ça, mais si tu veux bien... Non, il veut qu'on ait confiance en lui. Il veut qu'on croie pleinement qu'il est tout-puissant. Après, on voit que Néhémie aussi ne reconnaît aucune excuse au péché de son peuple, à son péché. Rien n'est excusable, aucun péché. Et Néhémie est totalement solidaire, et il ne rejette pas la faute sur eux. C'est pas moi, c'est les autres, Seigneur. Si nous, aujourd'hui, on est comme ça, c'est à cause de Ève, si aujourd'hui, nous, on est dans cette condition-là de pécheur. Non, moi-même, nous tous, on a péché contre toi. Et le péché comme se le rappelle Néhémie, pardon, c'est toujours une désobéissance envers Dieu. Toujours, toujours. Une désobéissance. Ce n'est pas qu'un mal fait à un autre. C'est avant tout une désobéissance envers Dieu. Ce n'est pas que moral. C'est une question d'obéissance. Et souvent, on se dit peut-être dans notre vie chrétienne, vous savez, ouais, Dieu en ce moment, je le sens loin de moi. Ma vie, c'est distant, c'est plat. Et je crois que quand on est dans cette situation, une des premières choses que l'on doit faire, c'est se poser qu'y a-t-il entre Dieu et moi ? Dans quel domaine de ma vie je ne lui obéis pas ? À qui je ne veux pas pardonner ? Quelle mauvaise habitude, quel péché je ne veux pas abandonner ? Je suis en train de lire un livre de Dietrich Bonhoeffer. Vous savez, il était sur l'écran la semaine dernière concernant les chrétiens persécutés. C'était un Allemand, un théologien qui s'est opposé aux nazis et qui est mort persécuté. Et dans son bouquin, il a une phrase percutante qui revient souvent, c'est « Le chemin de la foi, c'est le chemin de l'obéissance. » La foi, ce n'est pas quelque chose de mystique où on attend une présence de Dieu qui vient comme ça et qui nous... une petite voix dans la tête, vous savez. Non, c'est un chemin d'obéissance. Où il montre comment... Jésus n'a pas demandé aux disciples et aux personnes qu'il croisait de comprendre qui il était, mais de lui obéir. Toi, jette tes filets, suis-moi. Ok, j'obéis. Toi, tu laisses tes comptes de comptable, tu me suis, et il obéit. Croyez en moi. Enfin, Néhémie aussi reconnaît que le jugement de Dieu est juste, mais que dans sa grâce souveraine, il pardonne tout à celui qui veut se rapprocher de lui. Et donc, il constate à la fois le péché qui a mis cette distance. Ils sont loin de Dieu, mais qu'en même temps, Dieu peut se rapprocher d'eux. Et Néhémie a conscience qu'il a affaire à un Dieu remarquable, un Dieu qui peut tout, un Dieu extraordinaire qui cherche lui aussi des serviteurs remarquables. Alors, je lis le verset 10, qui m'a beaucoup interpellé. « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Comment ça, ils sont ses serviteurs ? Ça ne vous fait pas bizarre, ça ? Qui est serviteur, là ? Comment ils ont servi Dieu pendant des siècles ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'était des serviteurs ? Ah bon ? Malgré tous leurs péchés et la honte qui repose sur eux, ils sont serviteurs de Dieu, quoi qu'il en soit. C'est attaché à leur identité. Alors certes, ce ne sont pas des serviteurs de choix, mais des serviteurs choisis par Dieu. Être serviteur de Dieu, on constate que ce n'est pas une option quand on lit la parole. Et accepter de servir Dieu, c'est renoncer à son histoire pour entrer dans l'histoire de Dieu. Et j'ai un exemple pour ça que j'ai vu dans un bouquin de Francis Chan et que j'ai vécu aussi personnellement. Alors, est-ce que vous connaissez ce film ? Une affaire de famille. Avec André Dussolier, Miu Miu, Eric Caravaca, Julien Kodja, Julien Courbet et Raphaël Charrier. Ouais, j'ai eu une carrière d'acteur dans le passé. Je l'étais pendant une seconde. Même pas une seconde et demie. J'ai eu l'occasion de pouvoir être figurant pour ce film, où je faisais un soi-disant photographe sur un bord de terrain de foot. Et donc, on voit le match de foot, et il y a un moment, dans l'angle tout petit, on voit un gars de dos qui est accroupi comme ça en train de faire des photos, et c'est moi. Mais ça dure 30 secondes. Alors, moi, j'étais tout fier. Et puis, donc, j'avais jamais vu le film, je le regarde chez moi, et j'appelle Marion, je dis viens voir, je suis à la télé, et regarde ça. Et elle regarde, elle fait ah. Bon, je vais me faire un thé. Bon, il dit, mais c'est mon film. C'est mon film. Alors, imaginez que là, ce matin, je vous rassemble tous et je vous dis, ouais, il y a mon dernier film. C'est l'histoire de ma vie. Et puis, je vous montre le film. Alors, vous voyez le film qui se déroule. Puis, à un moment, je dis, ah, vous avez vu, je suis là. C'est mon film. Je me serais ridiculisé. On aurait bien rigolé, mais je me serais ridiculisé. Quelle est l'importance de mon histoire ? quel personnage je suis. C'est pour moi le personnage central. C'est Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Et nous ne sommes pas au centre de notre histoire. Dieu, on ne demande pas à Dieu de venir dans mon histoire, compte dans mon histoire à moi, pour moi, fais quelque chose pour moi. Mais c'est comment moi, je veux rentrer dans son histoire à lui, être son serviteur. La méthode de Dieu, c'est les hommes. Ça aussi, c'est pas de moi, c'est trop bien. Mais c'est une phrase très connue. La méthode de Dieu, c'est les hommes. Et puis, regardez, on peut se dire, oui, mais moi, je suis ni remarqué, ni remarquable. Je suis un mec, bon, voilà, je suis bof. Ça fait des années que je suis bof. Et je serai probablement toujours bof. C'est réservé à d'autres d'être des serviteurs, des gars où on se dit spirituellement, c'est des montagnes, ils sont trop forts. Regardez le texte. Verset 6, Néhémie, ton serviteur. Verset 7, que tu as donné à Moïse, ton serviteur. Et verset 10, ils sont tes serviteurs. Tous serviteurs. Tous au même niveau devant Dieu. On est tous à genoux, hein, n'est-ce pas ? C'est ça le niveau. Tous à genoux. Mais tous, autant que nous sommes, à être appelés serviteurs. Au début, au milieu, à la fin, connu, pas connu, quel que soit notre ministère, on est racheté à un grand prix, nous dit Néhémie. On est racheté, notre vie ne nous appartient plus. Il a racheté les droits d'auteur. On doit rentrer dans sa vie à lui, dans son programme, son plan. Alors, je vais bientôt être orateur pour un atelier d'évangélisation avec des jeunes et on m'a demandé de parler, vous savez, de projets qui boostent, où tu choisis un projet qui booste et où tu vas peut-être demander à Dieu de venir quoi, dans ton projet et c'est génial. Et en fait, on a décidé de modifier ça, quoi, parce que ça ne va pas. Il y a un seul et unique projet, c'est celui de Dieu. Et ce n'est pas à Dieu de venir dans mon projet, c'est moi de rentrer dans le sien. Vous savez, tous ces trucs, enfin j'ai dévié complètement de mes notes, mais ça me vient là. On dit toujours, ouais, Dieu a des projets pour toi. Vous savez, on tire de Jérémie ce verset-là, quoi. Dieu a un plan pour toi, pour ta vie, c'est ton coach personnel, tu vas voir, il va faire toi un mec super. Non, le seul projet qu'il y a, c'est que tu le suives, lui. Il n'y a rien d'autre qui te soit suffisant. Dieu ne se cherche pas une élite, des spécialistes, des gars qui soient au top du top, mais des gens qui lui sont consacrés et qui se rendent compte de leur petitesse, qu'ils ne sont rien. Tout à l'heure, quelqu'un a prié comme ça, que sans Dieu, ils ne sont rien. Et j'ai remarqué que ceux chez qui les dons du Saint-Esprit, vraiment, se manifestent le plus, ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents. Ce sont ceux vraiment dont on voit une vie qui se rend complètement dépendante de Dieu. Une vie à son écoute. Une vie où ils savent que sans Dieu, ils ne sont rien. Des hommes qui se repentent. Et si vous discutez avec, à l'instant, un frère qu'on connaît ici dans l'église qui est venu plusieurs fois, le seul conseil qu'il donne, t'as un jeune, tu veux le voir, tu lui dis, c'est quoi le conseil pour la vie chrétienne, pour servir dans tel ou tel ministère? Il dit, repends-toi et repends-toi vite. C'est tout ce qui compte. Même si j'étais le plus remarqué de tous les hommes, si devant Dieu, je ne suis pas remarquable, qu'il ne peut pas m'appeler bon et fidèle serviteur, toutes mes œuvres ne servent à rien. Je vous lis juste le verset de 2 Timothée 2,15. Hop là, je reviens là. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Murray McShane disait ceci, l'Église cherche toujours de meilleures méthodes, de meilleures façons de faire, de meilleures ci ou ça. Mais Dieu, lui, cherche de meilleurs hommes, tout simplement. Et maintenant, passons à la conclusion. Comment Néhémie conclut ? Alors, c'est assez. Ça me plaît beaucoup. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il parle du roi à qui il va se présenter. J'étais alors échanson du roi. Quelle manière de conclure. J'étais alors échanson du roi. Ça veut dire. je comprenais rien. J'étais pas bien, parce que j'étais serveur. J'étais dans une position où me présenter devant le roi et lui dire que je voulais démissionner, ça se faisait pas trop, quoi, à l'époque. Il n'y avait pas de préavis, il n'y avait pas toutes ces choses-là. J'y connaissais rien, la situation me semblait déjà complètement bloquée et improbable. Mais j'ai ce fardeau-là et je veux aider. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Ok, j'y vais. Mais je ne pouvais pas, j'avais pas le droit. Comment j'allais faire? Néhémie abandonne tout, cette situation, comme je vous le disais, dans une belle capitale pour retourner dans une ville en ruine. Mais Néhémie avait compris que ce n'était pas son histoire. Il est en train de réaliser que c'est l'histoire de Dieu, le plan de Dieu, où Dieu avait aussi prédit ça, ce retour-là. Vous vous rendez compte? Rentrer dans le plan de Dieu. J'ai un rôle à jouer, Dieu me donne un rôle à moi, à tous ceux qui l'a racheté, tous ceux qui lui appartiennent, tous, absolument tous, ont un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte pour nous? Si on priait, hein, pour ça. Si l'un ou l'autre veut bien prier, s'il vous plaît, deux personnes.
De voir comment Néhémie a considéré son peuple, l'état de son peuple, et s'est mis à genoux. Combien il a pu être sensible au péché qui l'entourait, et être à genoux, et avoir compassion, et te supplier, Seigneur, pour son peuple. Et bien souvent, je me dis, je vois le péché de mon peuple, je vois mon propre péché, qu'est-ce que j'en fais? Pardon, Seigneur, pour cet oubli de ces choses que tu nous montres, et qu'on soit des serviteurs à genoux, Seigneur, pour d'avoir préparé dans la prière et avec toi ces actions que tu mets devant nous. Et merci, Seigneur, parce que tu es patient et que tu veux nous utiliser.
Amen. Néhémie avait compris qu'il ne fallait compter ni sur ses capacités, ses compétences, parce que de toute façon il ne les avait pas, c'est évident, ni sur les qualités du peuple. Il avait bien compris leur nature, mais uniquement s'accrocher aux promesses de Dieu. Et ça doit être notre mot d'ordre, je crois, pour notre vie. C'est que ne pas compter sur nous, mais sur les promesses que Dieu nous a faites. Car nous, on n'est pas très fiables. Ce que vous en pensez, mais alors, quelle leçon de cet homme pas remarqué mais remarquable. Et on voit même après quand il va travailler sur les murailles, enfin c'est magnifique, hein. Je vous invite vraiment à relire ce livre de Néhémie. On voit sa stratégie vraiment avec Esdras après, enfin toute cette période, ce qui s'est passé, mais une poignée d'hommes qui servent le Seigneur avec un cœur brûlant et qui sont contagieux. Vraiment, que le Seigneur utilise, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique à voir. Alors, quelle leçon pour nous? Alors, j'ai une question. Qui veut être un Néhémie, un Esdras, un Zorobabel ou un Agé? Qui veut être quelqu'un de remarqué? À vous de choisir. À chacun de nous de choisir. Si nous voyons des besoins, des manquements, comme Néhémie les a vus, dans notre église, chez des frères et sœurs, des amis, quelle attitude on va avoir? Ouais, les anciens, ils sont même pas capables de... Nanani. Ou tel responsable, il sert à rien, et lui, il fait ça mal, et lui, il fait pas ça, et c'est n'importe quoi. Ok, très bien, c'est un choix. Là, tu te feras remarquer par tes remarques, mais négativement, bien sûr. Ou avoir ce cœur-là de dire, il y a un besoin. Comment moi, je me sens concerné, et me dire que là, le Seigneur, il a une volonté, il est en train de faire quelque chose, je ne veux pas être sur le banc de touche. S'il te plaît, fais-moi rentrer sur le terrain. Je veux te servir, je ne sais pas comment, je ne sais pas jouer, mais laisse-moi rentrer, s'il te plaît, et conduis-moi. Tu vois des souffrances aussi chez des personnes autour de toi qui sont en ruine, qui ressemblent à Jérusalem. Ou toi-même, quel domaine de ta vie est en ruine? Quel aspect de ta vie est en ruine? Et comment tu veux réagir face à ça? Être un ennemi déjà dans ta propre vie en disant, Seigneur, je te remets tout, je te confesse ce que j'ai fait. Et maintenant, je veux te laisser écrire pour moi la suite. Et rentrer dans ton plan. Prions que Dieu nous donne un cœur brûlant pour lui et que le péché dans notre vie soit toujours quelque chose qu'on ait en horreur, qu'on ne le supporte pas, surtout pas. Et cultivons la repentance, la piété, car c'est C.S. Lewis qui disait ça, on est une sainte confrérie d'inaptes. Le club des mendiants de la grâce. Alors, je sais, vous me l'avez sûrement déjà entendu le dire, mais j'aime beaucoup cette définition de l'Église. Une sainte confrérie d'inaptes, un club de mendiants de la grâce. Et comptons non sur nos forces, mais sur sa grâce et sa puissance. Et laissons-le lui-même, c'est à lui de définir les bornes de nos capacités, de nos ministères. C'est pas à nous de dire « moi, c'est ça » et pas le reste. Mais avoir un regard qui soit attentif à ce que Dieu nous montre. Et au lieu de se dire, ben ça je suis capable, je ne suis pas capable, c'est Seigneur, je me remets à tes pieds, il faut que tu fasses quelque chose là, je suis prêt à te servir. Et on verra. Je suis échanson, je ne connais rien aux travaux, mais je suis disponible. Je prie. Seigneur, nous avons conscience que tu nous as rachetés à un prix tellement cher. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux, ce qui t'était plus cher, pour racheter des gens comme nous qui ne valent rien. Seigneur, merci pour ça. Et nous avons conscience que ça t'a coûté énormément. Et Seigneur, nous voulons avoir une vie qui t'honore, qui te serve. Nous voulons avoir dans notre cœur ce désir d'être des chrétiens remarquables. Qu'on te plaise, Seigneur, on veut te plaire avant tout à toi, te rendre gloire, que notre vie soit une vie qui t'honore ici-bas. Seigneur, on reconnaît aussi qu'on ne peut rien sans toi, tout vient de toi. On a besoin que tu nous aides, que tu nous renouvelles, Seigneur. Apprends-nous à cultiver cette dépendance, que notre vie soit conduite non par nos forces ou nos capacités, parce qu'on sait qu'on les perdra ou qu'elles ne sont pas fiables, mais par la grâce, Seigneur. Vraiment, on ne veut pas être des abus, d'être dans l'abus de ta grâce, Seigneur, d'être des profiteurs, mais la savourer, Seigneur, et de se dire qu'on a une nouvelle vie qui t'appartient, on n'en est plus propriétaire. Seigneur, merci pour cet exemple de Néhémie, et apprends-nous tous les jours, quotidiennement, à devenir des hommes remarquables selon tes critères à toi et pas ceux du monde ou les nôtres. Dans ton nom, Seigneur. Amen.